Chapitre 13. Les indices d'Albert. Tuppence cligna des paupières. Elle voyait plutôt trouble. Elle essaya de soulever la tête, mais transpercée par une douleur aiguë, la laissa aussitôt retomber sur l'oreiller. Elle referma les yeux, puis les rouvrit. Avec le sentiment d'avoir accompli un exploit, elle reconnut ce qui l'entourait. « Je suis dans une salle d'hôpital », se dit-elle. Satisfaite des progrès de son cerveau, elle entreprit de se livrer à des déductions plus intelligentes encore. Elle était dans une salle d'hôpital et elle avait mal à la tête. Pourquoi s'y trouvait-elle et pourquoi souffrait-elle de cela? Elle n'était pas tout à fait sûre. Un accident? Des infirmières allaient et venaient, rien de plus naturel. Tuppence ferma les yeux et essaya prudemment de réfléchir. La vague vision d'un vieillard en habit sacerdotal lui passa par la tête. « Papa ?» se demanda-t-elle sceptique. « Est-ce qu'il s'agit de papa ?» Sans doute. Elle n'arrivait pas vraiment à s'en souvenir. « Mais qu'est-ce que je ferais malade dans un hôpital ?» se dit-elle. « Non, je dois être infirmière ici. Mais alors je devrais être en uniforme. En uniforme du détachement d'aide volontaire. » « Oh, Seigneur !» Une infirmière se matérialisa à son chevet. « On se sent mieux maintenant, ma jolie ?» l'interrogea celle-ci sur un ton de fausse gaieté. « Ça fait plaisir, non ?» Tuppence n'était pas du tout convaincue de ressentir du plaisir. L'infirmière évoqua la possibilité d'une bonne tasse de thé. « On dirait que je suis une patiente, » songea Tuppence, mécontente d'elle-même. Elle ne bougeait pas, essayant de rappeler à elle des mots et des idées éparses. « Des soldats !» décréta Tuppence, « bénévoles du détachement d'aide volontaire. C'est ça, bien sûr, je suis une VAD. » L'infirmière lui apporta du thé dans une espèce de tasse à bec et l'aida à le boire. La douleur se raviva. « Une VAD, voilà ce que je suis !» articula-t-elle tout haut. L'infirmière la regarda sans comprendre. « J'ai mal à la tête !» constata Tuppence. « Ça ira bientôt mieux !» répondit l'infirmière. Elle remporta la tasse et, au passage, fit son rapport à la surveillante. « Le numéro 14 est réveillé, je crois qu'elle est un peu dérangée. Elle a dit quelque chose ?»« Elle a dit qu'elle était une VIP !» La surveillante eut un reniflement de mépris pour bien montrer le peu de cas qu'elle faisait des personnes du commun qui voulaient se faire passer pour des VIP. « Nous verrons ça, » trancha-t-elle. « Dépêchez-vous, vous n'allez pas rester toute la journée plantée là avec cette tasse à la main. » Tuppence s'était à moitié assoupie. Elle en était encore au stade où les idées passaient fugitivement dans son cerveau en ordre très dispersé. Quelqu'un aurait dû être là, quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Cet hôpital avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas celui qu'elle se rappelait. Ce n'était pas celui dans lequel elle avait travaillé. C'étaient tous des soldats, se dit Tuppence. Dans le service de chirurgie, j'étais en charge des travées A et B. Elle souleva les paupières et regarda de nouveau autour d'elle. Elle décida qu'elle n'avait jamais vu cet hôpital et qu'il n'avait rien à voir avec la chirurgie, militaire ou pas. « Je me demande où celui-ci peut bien se trouver, » se dit Tuppence. « Dans quelle ville ?» Elle essaya de se rappeler des noms de villes. Les seuls qui lui vinrent à l'esprit furent Londres et Southampton. Cette fois, ce fut la surveillante qui apparut à son chevet. « On se sent un petit peu mieux, j'espère ?»«
Ça va très bien, » répondit Tuppence. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?»«
Vous vous êtes cogné la tête, j'imagine que c'est assez douloureux, non ?»«
Ça fait très mal, » reconnut Tuppence. « Où suis-je ?»«
Au Royal Hospital de Market Basing. » Tuppence réfléchit, ce nom ne lui disait rien du tout.
« Un vieux prêtre, » dit-elle.
« Pardon ? Non, rien, je... »
« Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu inscrire votre nom sur votre fiche, » déplora la surveillante. Son stylo bille à la main, elle regardait Tuppence d'un air interrogateur.
« Mon nom ?»«
Oui, pour l'enregistrement. »
Tuppence réfléchit en silence. Son nom, comment s'appelait-elle
« C'est stupide, » songea-t-elle. « Il semble que je l'ai oublié. Et pourtant, je dois bien en avoir un. »
Soudain, elle éprouva un léger sentiment de soulagement. La vision du vieux clergyman lui traversa brusquement l'esprit et elle déclara avec fermeté « Bien sûr, prudence, P-R-U-D-E-N-C-E, c'est ça.
C'est votre prénom et votre nom de famille.
Collet,
C-O-W-L-E-Y. Voilà une bonne chose de régler, dit la surveillante en s'éloignant avec l'air de quelqu'un que l'état de ses registres ne viendra plus tourmenter.
Tuppence se sentit assez fière d'elle-même. Prudence Collet, V.A.D., dont le père était clergyman au presbytère de je ne sais quoi, et on était en pleine guerre et...
C'est drôle, se dit Tuppence, on dirait que je vois tout de travers, que tout ça date d'il y a très longtemps.
S'agissait-il de votre malheureux enfant ?
C'était elle qui venait de dire ça, ou était-ce quelqu'un d'autre qui le lui avait dit ?
La surveillante était de retour.
Votre adresse, mademoiselle Collet, ou ne serait-ce pas plutôt madame Collet ? Vous avez demandé quelque chose à propos d'une enfant ?
S'agissait-il de votre malheureux enfant ?
Est-ce que quelqu'un m'a dit, ou est-ce moi qui l'ai dit à quelqu'un ?
À votre place, je dormirai un peu, mon petit, lui conseilla la surveillante. Et elle s'en retourna consigner à l'endroit requis le renseignement obtenu.
Elle a l'air d'avoir repris ses esprits, docteur, signala-t-elle, et elle dit s'appeler Prudence Collet, mais elle ne se rappelle pas son adresse. Et elle a dit quelque chose à propos d'une enfant.
Bah, fit le médecin de l'air impavide qui lui était coutumier, accordons-lui encore 24 heures. Elle se remet très gentiment de sa commotion.
Tommy, qui farfouillait dans la serrure, n'eut pas le temps de se servir de sa clé. Albert ouvrait déjà la porte.
« Eh bien, elle est rentrée ?» demanda Tommy.
Albert secoua lentement la tête.
« Comment ? Pas un mot, pas de coup de téléphone, pas de lettre, pas de télégramme ?»«
Rien du tout, monsieur, absolument rien, et rien de qui que ce soit. Ils se cachent, mais ils la tiennent, voilà mon avis, ils la tiennent. »«
Que diable veux-tu dire par « ils la tiennent » ?» s'énerva Tommy. « Tu as de ces lectures ? Qui donc la tiendrait ?»«
Ma foi, vous le savez bien, le gang. »
Quel gang ?
Un de ces gangs qui manie le couteau à cran d'arrêt, ou un gang international.
Arrête de dire des inepties. Tu sais ce que je pense ?
Albert le regarda d'un air interrogateur.
Je pense que c'est extrêmement désinvolte de sa part de nous laisser sans nouvelles, gronda Tommy.
Oh, je comprends votre point de vue, convint Albert. On peut aussi envisager les choses sous cet angle-là, si ça peut vous soulager, ajouta-t-il.
« Je vois que vous êtes revenu avec le tableau, » remarqua-t-il.
« Oui, je suis revenu avec ce maudit tableau, pour ce qu'il m'a rapporté. »«
Il ne vous a rien appris ?»«
Ce n'est pas tout à fait exact, il m'a effectivement appris quelque chose. Seulement, savoir si ce qu'il m'a appris va me servir à quoi que ce soit, c'est une autre paire de manches. »«
Le docteur Muret n'a pas téléphoné par hasard, ou mademoiselle Packard de la Crête ensoleillée, rien de tel ?»
Personne n'a téléphoné, à part l'épicier, pour nous dire qu'il a reçu de très belles aubergines. Il sait que la patronne les adore.
Il la prévient toujours, mais je lui ai signalé qu'elle n'était pas là en ce moment.
« J'ai un poulet pour votre dîner, » ajouta-t-il.
« C'est quand même un monde que tu ne sois pas capable d'imaginer autre chose que du poulet !»
fulmina peu obligeamment Tommy.
« Cette fois, c'est ce qu'ils appellent un poussin, » fit observer Albert.
« Maigrichon, » ajouta-t-il.
« Ça ira, » acquiesça Tommy. Le téléphone sonna. En un quart de seconde, Tommy avait sauté de son siège et saisi le combiné. « Allô ? Allô ? » ?»«
Monsieur Beresford, acceptez-vous un appel personnel d'Invergashley ?»
demanda une voix étouffée au loin.
« Oui ?»«
Ne quittez pas. »
Tommy attendit. Son excitation était retombée. Il attendit longtemps. Puis il entendit une voix qu'il connaissait bien, vive et nette. La voix de sa fille.
« Allô, c'est toi, pa ?»«
Déborah !»«
Oui ? Pourquoi est-ce que tu sembles hors d'haleine ? Tu as couru ?»«
Les filles, » pensa Tommy, « il faut toujours qu'elles vous critiquent. »«
Je deviens un peu poussif avec l'âge, » répondit-il.
« Comment vas-tu, Déborah ?»«
Oh, très bien. Écoute, papa, j'ai lu un truc dans les journaux. Tu l'as peut-être lu aussi. À propos de quelqu'un qui a eu un accident et qui est à l'hôpital. »«
Ah bon ? Je n'ai rien vu de tel ? Ou si je l'ai vu, je n'y ai pas fait attention. Pourquoi ? » ?»«
Eh bien, ça n'a pas l'air trop grave. Je crois qu'il s'agit d'un accident de voiture ou d'un truc dans ce goût-là. On dit que la femme, quelle qu'elle soit, une femme âgée, a donné le nom de Prudence Collet, mais qu'on n'a pas pu trouver son adresse. »«
Prudence Collet, tu veux dire ? » ?»«
Eh bien oui, je me demandais seulement, c'est le nom de maman, non ? C'est-à-dire son nom de jeune fille. » ?»«
Parfaitement. »
J'oublie toujours ce nom de Prudence. Toi et moi, nous ne pensons jamais à elle sous ce nom-là. Et Derek non plus.
Non, reconnut Tommy. Non, ce n'est pas le genre de prénom qu'on associe volontiers à ta mère.
Non, je sais. J'ai seulement trouvé que c'était plutôt bizarre. Tu ne crois pas que ça pourrait être quelqu'un de la famille ?
N'est pas impossible. Cela se passe où ?
À l'hôpital de Market Basing, il me semble. Si j'ai bien compris, il voudrait en savoir plus sur son compte. Et je me suis demandé, ma foi, c'est complètement ridicule. Il doit y avoir une quantité de Collet et une quantité de Prudence. Mais j'ai préféré vérifier, m'assurer, tu comprends, que maman était à la maison, en bonne santé et tout.
Je comprends, dit Tommy. Oui, je comprends.
Alors, papa, elle est à la maison ?
Non, répondit Tommy, elle n'est pas à la maison. J'ignore où elle est et si elle va bien ou non.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? J'imagine que toi, de ton côté, tu es allé à Londres bavasser avec tes vieux copains à cet imbécile de réunion mystère et boule de gomme.
Tu ne te trompes pas, avoua Tommy. Je suis rentré hier soir.
Et tu as découvert en arrivant que maman s'était absentée. Ou bien, est-ce que tu savais qu'elle s'absenterait ? Allez, papa, vide ton sac. Tu es inquiet, je le sens. Qu'est-ce que maman fabrique ? Elle joue encore au petit soldat, c'est ça ? À son âge, il serait grand temps qu'elle se calme.
Elle se faisait du souci à propos d'une histoire en rapport avec la mort de ta grand-tante Ada.
Quelle sorte d'histoire ?
Eh bien, une histoire de vieille dame dans une maison de retraite. Celle-là lui avait raconté un tas de salades qui l'avait troublée, et quand nous sommes allés chercher les affaires de la tante Ada, ta mère a voulu la revoir. Mais la vieille dame n'était plus là, elle était partie brusquement.
Ça n'a rien d'anormal, non ?
Les gens de sa famille étaient venus la chercher.
Cela paraît tout à fait naturel. Qu'est-ce qui là-dedans a pu mettre maman dans tous ces états ?
Elle s'est fourrée dans la tête qu'il était arrivé des bricoles à cette vieille dame.
Je vois.
Pour dire les choses crûment, la vieille dame a disparu, de façon tout à fait normale, c'est-à-dire attestée par des notaires, des banques et ainsi de suite. Seulement, nous n'avons pas réussi à savoir où elle est.
Tu veux dire que maman serait partie à sa recherche ?
Oui, et elle n'est pas rentrée alors qu'elle avait annoncé son retour pour il y a 2 jours.
Et tu n'as pas eu de ses nouvelles ?
Non.
Je trouve que tu pourrais quand même la surveiller d'un peu plus près,
lui reprocha Déborah sévère. Personne n'est capable de la surveiller, répliqua Tommy. Pas même toi, Déborah, puisque tu abordes la question. C'est comme ça qu'elle est partie pendant la guerre, s'occuper d'un tas de choses qui ne la regardaient pas.
C'est différent maintenant, elle est vieille, elle devrait rester à la maison et se dorloter un peu. Mais elle s'ennuierait sans doute, tout vient de là.
Tu as dit à l'hôpital de Market Basing ?
Oui, dans le Melfordshire. C'est à environ 1 heure, 1 heure et demie de Londres par le train.
C'est ça, dit Tommy. Et à côté de Market Basing, il y a un village du nom de Sutton Chancellor.
Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ?
Demanda Déborah. Ce serait trop long à t'expliquer. C'est à cause d'un tableau qui représente une maison près d'un canal.
Je ne comprends rien à ce que tu racontes, tempêta Déborah. De quoi parles-tu ?
Peu importe, répliqua Tommy. Je vais téléphoner à l'hôpital de Market Basing pour éclaircir quelques points. J'ai l'impression qu'il s'agit bien de ta mère, en effet. Les gens qui ont été victimes de commotions se rappellent souvent ce qui leur est arrivé enfant et ne retrouvent que lentement la mémoire du présent. Elle leur a donné son nom de jeune fille. Elle a peut-être eu un accident de voiture, mais en vérité, je ne serais pas étonné d'apprendre qu'elle a reçu un coup sur la tête. Ça lui ressemblerait assez. Elle a toujours eu l'art de se fourrer là où il ne fallait pas. Je te tiendrai au courant.